BFM Radio, Green Business, Nathalie Croiset.
On ne laisse pas toujours la place à la littérature dans Green Business, hein, logique, hein, ce n'est pas évidemment la thématique de l'émission, mais le premier roman dont je vais parler mérite le détour parce qu'il soulève des questions directement liées au développement durable. Jean-Pierre Gou, bonjour.
Bonjour Nathalie Croiset.
Donc vous êtes l'auteur de Siècle Bleu, hein, publié chez JBZ et compagnie, je l'ai dit, hein, donc c'est votre premier roman. Vous avez été chercheur en mathématiques aux États-Unis et maintenant vous travaillez en France dans le secteur de l'énergie. Alors Siècle Bleu, pour le résumer, c'est un thriller écologique, mais assez proche finalement de la réalité quand même, où les États-Unis, la Chine se livrent une bataille pour l'espace autour de l'hélium 3, hein, donc c'est qui sera le premier sur la Lune. Alors les méthodes sont parfois un petit peu déloyales. Donc là, on le voit clairement, hein, États-Unis, Chine, c'est vraiment le combat. On l'a vu aussi un peu à Copenhague, on va le dire. Donc l'Europe est absente dans tout ça. Donc pour vous, il y a vraiment, c'est l'avenir du développement durable, il se jouera entre ces deux-là.
En tout cas, eux, ils ont les clés pour faire que ce développement durable soit une réalité. Donc effectivement, ça se joue entre ces deux-là. L'Europe a une voix à jouer, peut-être une voix justement d'apporteur d'idées, une voix peut-être plus poétique que ces deux-là qui sont dans une guerre économique. Donc l'Europe a un rôle à jouer, mais sur la scène internationale, on n'a pas joué le rôle que l'on attendait de l'Europe à Copenhague.
D'ailleurs, vous posez un peu la question dans votre livre du rôle du politique avec des hommes politiques quand même qui sont très cyniques, hein, il faut le bien dire, et qui n'ont pas toujours vraiment envie d'évoluer sur la question de l'écologie.
Oui, c'est ça, ils sont cyniques, mais d'un autre côté, ils n'ont pas toujours le choix. Ils ont des électeurs et puis ils ont des lobbyistes. Et puis il y a une réalité du marché qui fait qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Et moi, ce qui me semble, c'est qu'il manque une dimension de rêve dans tout ça. Aujourd'hui, enfin, le combat écologique, et quand on regarde le changement climatique, c'est quelque chose qui est assez drivé par la peur, finalement. Les gens ont toujours tendance à noircir. Moi, dans ce livre, j'ai essayé d'avoir une description un peu réelle du monde dans lequel on vit, mais de donner une large part aux rêves, une large part aux entrepreneurs, aux visionnaires. Et chaque action individuelle qui sont prises, et c'est toutes les actions dont vous parlez dans Green Business participent à une évolution qui est positive, et je suis convaincu que cette évolution positive prendra le dessus. Mais c'est très dur et ça sera l'histoire de ce siècle, et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre Siècle Bleu, pour raconter cette évolution.
Oui, parce que vous avez parlé de ces visionnaires entre les États-Unis et la Chine, les politiques, il y a une association donc de défense de l'écologie, un Gaïa, mais qui n'hésite pas parfois à employer la méthode un peu forte, notamment pour s'opposer au massacre des dauphins au Japon. Ça peut, on va dire, s'assimiler un peu à ce que peut faire Greenpeace. Pourquoi montrer une association quand même en même temps assez virulente?
Il me semble que quand il y a un système qui dérive, et il y a une dérive de l'ultra-capitalisme aujourd'hui, quand un système dérive, il produit forcément son contraire, quoi. Et son contraire, justement, c'est ça peut être des individus, ça peut être des organisations. Là, c'est une organisation clandestine, un peu comme Greenpeace, mais quand même plus clandestine que Greenpeace. Mm-hmm. Et ces gens-là, ils dénoncent et puis ils essayent de s'opposer.
L'éco-terrorisme, c'est pas non plus la solution au développement durable.
Alors, les éco-terroristes, c'est la façon dont les États-Unis les appellent. Eux, ils se considèrent pas comme terroristes, dans le sens où, effectivement, ils utilisent la peur.
Oui, d'ailleurs, il y a un doute, il y a toute une manipulation, hein, qu'on va pas raconter, évidemment, dans le roman, mais comme il se passe pas mal de choses, les méthodes sont parfois déloyales. Évidemment, cette association Gaïa va se retrouver accusée de tous les maux, alors qu'elle n'en est pas responsable.
Exactement. Donc, enfin, éco-terroristes, c'est des gens, effectivement, qui s'opposent à des choses. Alors, ils s'opposent à des États. Donc, si on s'oppose à des États, c'est peut-être du terrorisme. Mais pour eux, c'est une façon de faire prendre conscience de certains faits et de s'opposer à une certaine marche du monde et de déclencher des soulèvements.
Alors, au cœur de ce roman, Un siècle bleu, Jean-Pierre Gou, il y a donc la Lune, hein, évidemment. L'objectif pour les États-Unis et la Chine, c'est à qui ira le premier là-bas. Donc, pour la conquête de l'hélium 3. Alors, l'hélium 3, c'est quoi? C'est du nucléaire, mais sans le radioactif, et c'est tout l'intérêt. Quand on va chercher sur Wikipédia, on dit que 25 tonnes permettraient de satisfaire les besoins des États-Unis et de l'Union européenne pendant une année, et que c'est une énergie qui permettrait à chacun de combler les besoins d'énergie pour des centaines d'années, mais ça coûte très cher aussi.
Alors, le problème, c'est que pour aller chercher, alors déjà pour l'hélium 3, il est produit par les explosions thermonucléaires qui ont lieu à la surface du Soleil. Il est transporté dans l'espace par les vents solaires. La Terre a un bouclier magnétique qui les repousse, donc il n'y en a pas sur Terre. Par contre, il y en a sur la Lune, quoi. Mais il y en a sur la Lune, un peu partout à sa surface, mais vous ne pouvez pas le ramener à la pelle. Sur des kilomètres carrés, vous pouvez peut-être ramasser quelques grammes. Donc, si on voulez monter, je dirais, une entreprise minière, logistique, pour pouvoir extraire cet hélium 3, il faudrait, c'est des millions de kilomètres carrés qu'il faudrait ratisser pour récolter cet hélium 3. C'est tout à fait possible. Il y a un certain nombre de chercheurs et puis également d'entrepreneurs qui font du lobby pour ça. Les Chinois, les Américains s'y intéressent. Aujourd'hui, Obama a plus mis la priorité sur la Lune, il l'a remis sur Mars, mais beaucoup de gens dans le spatial pensent que le passage par la Lune sera obligatoire. Et si les Chinois y vont, les États-Unis retourneront.
Mais ça veut dire quoi que l'avenir aussi, c'est toujours le nucléaire alors?
La grande différence avec l'hélium 3, c'est que là, on est dans du nucléaire de fusion et non plus du nucléaire de fission. Donc, le nucléaire de fission, ça produit des matières hautement radioactives, alors que le nucléaire de fusion, justement, lui, produit pas de matières radioactives, puisque c'est des petits éléments qu'on fusionne entre eux, alors que les autres, c'est des gros éléments qu'on casse.
Donc, finalement, la conquête de l'espace, enfin, de la Lune, retourner sur la Lune, ça peut être une des perspectives du développement durable.
Ça peut être une des perspectives. À mon sens, c'est un peu l'illustration de la folie humaine, parce que la vraie perspective, ça serait quand même de moins consommer d'énergie et d'utiliser des énergies de notre planète, qui sont le soleil, le vent,
la mer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous-même, vous travaillez dans le secteur de l'énergie, donc les énergies renouvelables au milieu de tout ça, quand on lit votre roman, on s'inquiète. D'ailleurs, ça se passe en quelle année exactement? Vous n'avez pas donné d'idée précise?
Je reste flou, mais l'action pourrait se passer maintenant, quoi, ou dans 2-3 ans, si on extrapole les programmes des différents pays.
Alors, vous terminez ce roman, on ne va pas le dire, sur un suspense insoutenable, hein, puisque c'est vraiment la première partie d'une saga dont vous envisagez finalement de suivre peut-être ce qui se passe aussi actuellement en matière de développement durable et de voir où est-ce qu'on va.
Exactement. Enfin, au cours de l'écriture, moi j'ai une idée, une trame en fait pour ce roman, mais je me nourris beaucoup de l'actualité. Enfin, ce tome-là, je l'ai commencé il y a 10 ans et les versions, elles ont évolué en fonction de l'actualité.
Parce que vous parlez de Copenhague, je parlais des massacres des dauphins au Japon.
Je crois que le roman permet la complexité, il permet d'avoir une diversité de points de vue, il permet de c'est ça, la confrontation des opinions. Et du coup, c'est moins tranché et on prêche pas des convaincus comme dans un essai. C'est peut-être moins, on va dire, pénible à lire. J'essaie d'habiller ça dans un thriller. Donc, j'espère que ça participera à faire changer les choses.
Vous soulevez aussi, donc, comme je disais, les questions directement liées au développement durable dans ce premier roman, Siècle Bleu, donc publié chez JBZ et compagnie. Merci à vous, hein, Jean-Pierre Gouff.
Voilà. Merci beaucoup. Il y a un site web, sièclebleu.org, dans lequel vous pourrez trouver toutes les informations.
Et ben voilà, c'est parfait. Vous avez tout dit. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans le studio de
BFM
Radio.
Beaucoup.
Place à Sarah Camus dans Green Business. Bonjour Sarah.
Bonjour Nathalie.
Comme chaque semaine, votre tour du monde des idées vertes, direction New York pour commencer.
Oui, à New York, on pédale en ce moment pour mincir et également pour sauver l'environnement. C'est un inventeur américain qui a mis au point il y a 2 ans un système qui s'appelle Green Revolution. Il permet en fait de transformer l'effort que vous produisez sur votre vélo en électricité propre. Alors son système, on peut notamment l'utiliser dans un club de sport à New York. Il y a des bicyclettes, vous montez dessus, vous pédalez et ça transfère le courant produit à un générateur qu'il transforme ensuite en courant alternatif. Ça fait à peu près maintenant 2 ans que ce système existe. Au début, il a été testé dans une toute petite salle de sport au fin fond du Connecticut. Et depuis, eh bien, il a été mis en place dans des grandes salles de fitness à Los Angeles, à New York, à Washington. Un chiffre, 4 séances par jour, Nathalie, ça produit l'énergie nécessaire pour allumer une maison pendant 6 mois. Alors pour l'instant, l'équipement n'existe que pour les vélos, mais l'équipe de Green Revolution réfléchit sérieusement maintenant à adapter ces modèles de capteurs sur d'autres machines de cardio-training.
Et vous imaginez, si on mettait en sous-sol des gens qui pédalaient comme ça, qui nous produisaient de l'énergie, ça serait pas mal. Bon, allez, on reste aux États-Unis. Une nouvelle tradition pourrait naître cette année chez les étudiants qui vont être diplômés dans les universités américaines. C'est le lancer de toges à la poubelle de recyclage.
Vous savez, Nathalie, c'est la traditionnelle cérémonie de remise de diplôme aux États-Unis. On voit ça dans tous les films. Eh bien, depuis des années, les campus américains essaient de réduire l'impact environnemental de cet événement en diminuant par exemple la consommation d'électricité utilisée ou en imprimant le programme de la journée sur du papier recyclé. Et bien désormais les étudiants peuvent aussi faire un petit geste, ils peuvent opter pour des toges biodégradables ou recyclables fabriquées notamment à partir de bouteilles en plastique recyclées. Une centaine d'universités ont d'ores et déjà commandé ce modèle écolo et à la librairie par exemple de l'université du Vermont, il paraît qu'il y a une toge qui est exposée à côté de 23 bouteilles en plastique, soit le nombre exact nécessaire. nécessaires pour fabriquer ce modèle.
Allez, on termine, Sarah, avec ce rendez-vous à noter dans vos agendas.
Et si vous voulez vous débarrasser de votre vieux grille-pain ou de votre vieux sèche-cheveux, rendez-vous lundi, mardi et mercredi prochain sur le parvis de la Défense. Une collecte gratuite de déchets électriques et électroniques qui est organisée. L'opération est mise en place pour la deuxième année consécutive. En fait, comment ça se passe? Les produits en état de fonctionner seront testés et revendus s'ils le peuvent sur le marché de l'occasion. Les autres seront démantelés. Les matières premières pourront être réutilisées et récupérées. L'année dernière, c'est quand même plus de 100 tonnes de matériel qui ont été récupérées. Un chiffre que les organisateurs de l'opération espèrent donc largement dépasser cette année.
Voilà, avec des sacs bien pleins à l'arrivée à la Défense lundi, mardi et mercredi prochain. Merci Sarah Camus. C'est la fin de Green Business, toujours, hein? Pour écouter l'émission, le site bfmradio.fr où vous pouvez nous laisser vos commentaires et vos suggestions. Très bon week-end à l'écoute de BFM Radio.